parler d'énergie dans cette émission du, on est quel jour ? Mardi 14 août. Vous le savez, il y a de grands défis à relever en matière d'énergie. Les ressources ne sont pas inépuisables et puis notre planète se réchauffe. Alors parmi les solutions envisagées, il est souvent question de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'on attend de ce gaz qui, lorsqu'il brûle, ne rejette que de l'eau ? Et puis surtout, peut-on produire de l'hydrogène de manière écologique ? Pierre Sercombe, qui est chercheur spécialisé dans les technologies de l'hydrogène, est avec nous. Dans cette émission aussi, un sujet qui nous concerne tous, la lessive. Comment lavions-nous hier ? Avec quelle machine et quels produits laverons-nous demain ? Daniel Berthaud, responsable scientifique, produit d'entretien de la maison chez un grand lessivier et surtout passionné par son sujet, nous dira tout sur la lessive. On commence avec l'hydrogène. Pierre Sercombe, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef du programme technologie de l'hydrogène au CEA. Alors, si on réussit à développer les technologies de l'hydrogène, à quoi pourrait ressembler notre monde dans quelques années ?
Alors, ce monde pourrait ressembler un peu à celui qu'avait imaginé Jules Verne dans L'île mystérieuse, un monde où on utiliserait l'hydrogène et l'oxygène comme un combustible et un comburant qui nous permettrait de pouvoir effectivement fournir de l'énergie à l'utilisateur sans avoir d'impact majeur sur l'environnement, à la condition quand même première de pouvoir le produire dans des conditions
propres,
mm-hmm. économiquement viables. Et c'est tous ces enjeux qui s'offrent à nous chercheurs, comment pouvoir produire, comment transporter, distribuer et convertir cet hydrogène en électricité ou éventuellement le brûler pour un petit peu modifier finalement le paysage énergétique actuel.
Et grâce à l'hydrogène, on pourrait voler, rouler, se chauffer, faire la cuisine ?
L'hydrogène pourrait effectivement avoir ce caractère assez universel. C'est en fait un vecteur énergétique, c'est-à-dire les Anglais utilisent un autre mot, ils disent carrier, ça veut dire transporteur d'énergie.
Mmh, mmh.
Et cet hydrogène est effectivement cette capacité de pouvoir transporter de l'énergie du lieu où on peut le produire. Et à ce moment-là, peut-être le produire ailleurs que dans les lieux actuels, vers l'utilisateur final, en fonction de ses besoins. Et c'est tous ces enjeux et c'est par contre, ça nécessite un certain nombre de ruptures technologiques auxquelles on travaille fortement.
Pierre Sercombe, comment produire l'hydrogène ? Comment le transporter ? Comment le stocker ? Vous allez nous raconter tout ça dans cette émission. Et avec l'hydrogène, on pourrait faire fonctionner un appareil à CD, par exemple ?
Tout à fait. On pourrait utiliser un appareil à CD à partir du moment où on transforme cet hydrogène en électricité à travers un dispositif, un réacteur électrochimique qu'on appelle plus communément une pile à combustible. Et on pourra regarder comment fonctionne cette pile à combustible.
Il n'y a pas encore de pile à combustible derrière Rose qui chante Ciao Bella. Combe est chercheur et il s'occupe d'un programme technologie de l'hydrogène. Il sait donc tout ou presque sur l'hydrogène. Alors Pierre Sercombe, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas encore l'hydrogène ?
Alors on n'utilise pas encore l'hydrogène dans un premier temps pour des aspects purement économiques.
Trop cher à produire ?
Trop cher à produire, trop cher à reconvertir pour fabriquer de l'électricité en fin de chaîne. Et c'est donc ces verrous économiques que l'on doit lever. On les lève en modifiant les matériaux, en innovant dans les matériaux, en innovant dans des nouvelles structures. Et on arrive à comme ça à progresser d'année en année. Pour vous donner à peu près une idée, on a pu en l'espace de 5 ans diviser par 10 le coût d'une pile à combustible telle qu'on la faisait dans les années 90. Désormais, on la fait 10 fois moins chère et elle est 10 fois plus puissante et elle est 100 fois plus petite et moins lourde que ce que je pouvais le faire en début de ma carrière dans les années 96 sur la pile à combustible.
Une pile à combustible, on a l'impression que c'est vraiment le truc magique qui va nous fournir de l'électricité en quelque sorte sans polluer dans les années à venir. Mais qu'est-ce que c'est exactement la pile à combustible ?
Alors d'abord, il n'y a rien de magique, bien évidemment.
Oui.
C'est un vieux procédé. C'est quelque chose qui a été déjà décrit dans des ouvrages scientifiques dans les années 1830, mais dont la technologie n'était pas mûre. Et on a réussi à faire les premiers objets pour les missions spatiales Gemini et Apollo. Mm-hmm. Il n'y aurait jamais eu de vol habité, Gemini, Apollo et la navette spatiale actuellement, si on n'avait pas réussi à mettre au point la technologie de la pile à combustible.
Et alors, avec des mots simples, qu'est-ce que c'est ?
Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une pile à combustible, c'est un réacteur, c'est-à-dire un site où on va faire réagir de l'hydrogène et de l'oxygène que l'on peut prélever directement dans l'air. Dans l'air, il y a 20% d'oxygène. On arrive à les recombiner en utilisant des matériaux adéquats, de manière à, d'une part, créer un courant, créer des électrons qui vont fournir un courant, et c'est ce courant qu'on va utiliser pour faire tourner un moteur, éclairer une lampe. Et le produit de la réaction, au lieu d'être un polluant nauséabond, c'est de l'eau. Comment ça se présente ? Une pile se présente finalement comme un assemblage, un empilement, c'est pour ça qu'on l'appelle pile, un empilement de couches successives, de composants, au sein duquel on va faire venir de l'hydrogène d'une part et de l'oxygène d'autre part, séparé par un composant qu'on appelle électrolyte, mais c'est exactement la même chose que vous pouvez trouver ça dans une pile que vous achetez dans un supermarché, on ne va pas citer de marque. Chacun des composants représente ou une borne plus ou une borne moins de la pile.
D'un côté et donc là, dans la pile à combustible, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Alors l'oxygène, on le trouve dans l'air, l'hydrogène, c'est plus compliqué.
L'hydrogène, c'est plus compliqué. Ça veut dire...
Il y en a beaucoup, mais il faut aller le chercher.
Voilà, alors c'est assez paradoxal. L'hydrogène, il est partout, et... mais il n'est pas à l'état natif. Ça doit être le matériau, l'un des matériaux les plus abondants dans l'univers, mais nous ne pouvons pas le trouver à l'état de molécule d'hydrogène. Il est toujours lié à quelque chose. D'ailleurs, quand vous utilisez des hydrocarbures, c'est finalement de l'hydrogène associé à du carbone. Et cet hydrogène, nous pouvons le produire soit à partir d'hydrocarbures, mais si on le produit à partir d'hydrocarbures, on aura comme difficulté de rester dépendant des énergies fossiles.
Alors quand on dit hydrocarbures, c'est
de
l'essence,
c'est du charbon. Ne pas oublier que nos grands-parents utilisaient le gaz de ville, le fameux gaz à tous les étages. C'était pas autre chose finalement qu'un mélange d'hydrogène, de méthane et de monoxyde de carbone. Et en fait, il était produit à partir de charbon, notamment à Paris, à la périphérie de Paris. On faisait réagir de l'eau, de la vapeur d'eau, avec du charbon et on obtenait un produit inflammable dont plus de 50% était composé d'hydrogène. Donc c'est déjà, on faisait de la prose sans le savoir, comme disait Monsieur Jourdain, on faisait de l'hydrogène sans le savoir.
Donc pas avec des hydrocarbures, on pourrait avec des centrales nucléaires, mais bon, c'est pareil, les centrales n'ont pas très bonne presse.
Alors, d'abord, on raisonne pas exactement comme ça. L'intérêt pour un pays, lorsqu'on veut avoir de l'énergie, c'est de diminuer au maximum sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur et d'assurer sa sécurité. Et surtout, et désormais, de limiter au maximum l'impact sur l'environnement. Donc tous les systèmes de production que l'on doit inventer ne doivent pas avoir d'impact sur l'environnement. Quels sont-ils ? Le premier, c'est de permettre la décomposition de l'eau. Utiliser l'eau, l'eau est finalement composée d'hydrogène et d'oxygène, donc de casser cette molécule d'eau de manière à pouvoir prélever l'hydrogène. Et l'eau, il y en a de partout.
Mais on peut faire ça avec de l'énergie solaire, par exemple ?
On peut tout à fait faire ça avec de l'énergie solaire. Il y a un certain nombre de procédés qui sont à l'étude à l'échelle européenne et dans le monde entier. Alors, casser une molécule d'eau uniquement avec la chaleur solaire est possible, mais nécessite de travailler à très très haute température, plus de 3000 degrés. On utilise d'autres moyens. On peut notamment utiliser ce qu'on appelle des électrolyseurs à haute température, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'énergie sous forme de chaleur pour pouvoir casser la molécule d'eau, mais on ajoute aussi un petit peu d'électricité de manière à pouvoir, à très haut rendement, fabriquer de l'hydrogène d'une part et de l'oxygène d'autre part.
Je me suis documentée sur le sujet, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît beaucoup. On pourrait produire de l'hydrogène avec une algue verte. On fait travailler la nature.
Tout à fait. D'abord, le mimétisme vis-à-vis de la nature est très souvent utilisé par les chercheurs, c'est-à-dire qu'on essaye de regarder comment fait la nature et par mimétisme, on essaye de le reproduire. Dans beaucoup d'objets technologiques, dont la pile à combustible, dont les systèmes de production d'hydrogène, nous avons comme voie de recherche pour le très long terme ce fameux mimétisme. Les algues vertes que vous parlez, c'est finalement s'apercevoir que certains organismes soumis au rayonnement solaire peuvent favoriser la production d'hydrogène. On va d'ailleurs tendre à la favoriser et à l'accentuer. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas capables de fabriquer de véritables stations d'hydrogène à partir de ces algues vertes. Ça relève encore de la recherche fondamentale. Il y a énormément de recherches aux États-Unis, en France, et c'est des recherches qui sont plutôt à l'échelle fondamentale puisqu'on va travailler sur l'organisme et sur comment, à l'intérieur de l'organisme, quels sont les catalyseurs qui vont faire que cette réaction de fabrication d'hydrogène va se produire au détriment d'autres réactions qu'habituellement l'organisme va faire.
Le but, c'est de récupérer de l'hydrogène sous forme de gaz ou sous forme liquide ?
Non, cet hydrogène produit se retrouve à l'état gazeux. L'hydrogène a une particularité, une propriété, c'est d'être à la température ambiante, d'être sous forme gazeuse. C'est ce qui en fait un produit stable et que l'on peut manipuler, mais à l'inverse, c'est un produit donc qui occupe beaucoup d'espace et qui, pour le transporter, nécessite de le comprimer, puis éventuellement de le transporter comme on le fait pour le gaz naturel, à travers des pipes et de le stocker à travers des bonbonnes sous haute pression, mais aussi de pouvoir le liquéfier au même titre que le gaz naturel. On a beaucoup de possibilités.
Pierre Sercombe, on se retrouve juste à... Tout s'explique, même les piles à combustible. J'espère que vous avez bien compris la technique expliquée par Pierre Sercombe, qui est responsable du programme technologie de l'hydrogène dans un grand organisme de recherche. Florence D'Artois, bonjour.
Bonjour Fabienne.
Pierre Sercombe, je vous présente Florence D'Artois de l'Institut
bonjour.
National de l'Audiovisuel.
Bonjour.
Et quand on dit Florence D'Artois, qu'est-ce qu'on dit Pierre Sercombe, on dit archive.
Archive, INA je suppose.
INA, voilà, voilà. Institut National de l'Audiovisuel.
Qu'est-ce que vous attendez?
Ah, qu'est-ce que j'attends? Mais en fait, comme je vous expliquais, le principe de la pile à combustible remonte à plus d'un siècle. Donc ça fait plus d'un siècle qu'on essaye de transformer un principe en de la technologie. Historiquement, on a pu voir plusieurs étapes. Donc 1839, on considère que c'est le départ de la pile à combustible. Les premières réalisations technologiques, c'est entre 39 et 53 par M. Bacon, qui est un Anglais, qui a d'abord travaillé sous financement militaire, 39, et qui a effectivement été le premier à faire des vraies réalisations de prototypes à l'échelle de plusieurs kilowatts d'électricité. Donc ça veut dire des produits que tout le monde pourrait utiliser finalement. Et puis après, la vraie, et actuellement la seule utilisation véritablement industrielle, entre guillemets, c'est l'utilisation spatiale, donc qui date des années 60, et qui continue d'ailleurs à être utilisée dans les navettes spatiales, puisque les navettes spatiales, lorsqu'elles reviennent sur Terre suite à un incident, c'est parfois parce que la pile à combustible n'était pas suffisamment fiable.
Non, Florence, parlez, parce qu'autrement, elle va vous couper
l'air. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que...
À propos du spatial, oui. Vous avez des choses.
Alors j'ai des choses effectivement. On a très peu de choses, c'est ce que je voulais dire quand même, sur l'hydrogène dans nos archives. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver un document qui soit intéressant. Et heureusement nous avons nos moteurs fusées à l'hydrogène. Et nous allons donc écouter un document qui date du 1er septembre 1967. Et le monsieur que nous allons écouter s'appelle Monsieur Tieck, qui était conseiller scientifique de la SEPR. Alors la SEPR, c'est la Société d'études de propulsion par réaction, et cette société a été créée en 1944, et c'est la première société qui a fabriqué ces moteurs à hydrogène.
C'est en 1967, Monsieur Sercombe.
La France vient de réaliser le premier moteur fusée à hydrogène liquide d'Europe. D'abord, il serait intéressant de savoir quelles sont les applications pratiques de ce moteur fusée.
Eh bien, ce moteur fusée est destiné à propulser l'un des étages, l'une des sous-fusées d'un engin dont le but est de placer sur orbite un satellite d'une masse telle qu'on puisse l'utiliser à des fins scientifiques ou à des fins de télécommunication.
Oui, c'est-à-dire qu'un tel moteur fusée n'a pas d'application militaire.
L'utilisation militaire de ce moteur n'est pas envisagée actuellement.
Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce moteur fusée, on a fait un grand pas dans le domaine de l'aérospatial? Est-ce qu'on a déjà avancé sur le programme prévu?
Certainement. La réalisation de ce moteur s'est faite dans un délai relativement court. Et dans le cadre du programme national français, sans qu'il ait été utilisé de technologies étrangères.
Heureusement, Florence, que cet extrait ne dure qu'une minute 14.
Oui, parce que, ceci dit, pour la sieste, c'est pas mal.
Oui. Mais bon. Alors, le journaliste n'était pas convaincu, les réponses n'étaient pas très franches. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Sercombe?
Alors,
quand il dit les militaires, on n'a jamais envisagé d'utiliser cette technologie pour les militaires.
Alors, de toute façon, l'hydrogène et l'oxygène comme combustible et comburant pour propulser des fusées, c'est effectivement actuellement ce que l'on utilise pour les fusées à usage civil, pour lancer des satellites, ou à usage militaire. Les militaires sont intéressés pour le lancement de satellites, pour la surveillance, pour le GPS, pour des applications civiles et militaires. Et d'ailleurs, votre extrait est intéressant parce qu'en fait, l'utilisation de cet hydrogène, c'est la première utilisation d'hydrogène comme véritable combustible pour le transport. Et à l'heure actuelle, sur les environ 50 millions de tonnes d'hydrogène produites par an dans le monde, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà une production industrielle de ce produit, je crois qu'il y a environ 1% seulement qui est utilisé pour le transport, véritablement. Et en fait, quand je dis transport, c'est pour l'alimentation, la fusée Ariane, la navette spatiale, les choses comme ça.
Expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que là, l'hydrogène est utilisé sous forme liquide.
Alors, en fait, il est stocké sous forme liquide.
À moins de 160 et quelques,
non ? On utilise l'échelle Kelvin, on dit 24, parce que c'est plus simple, mais ça correspond effectivement à moins 253 degrés Celsius.
Ah, j'étais pas loin.
Non, non, très très proche. Faut après aller chercher l'hélium pour descendre beaucoup plus bas, encore plus bas. Donc c'est un des produits qui est à la plus basse température, à l'état liquide. Et on l'utilise pour le stocker dans un volume acceptable, on l'utilise à l'état liquide. Et puis surtout...
Et c'est pour ça que sur les fusées, quand on les voit sur leur pas de tir, ça fume.
Vous voyez de la fumée. En fait, c'est l'évaporation.
Et on remplit en même temps que ça s'évapore.
Alors, on remplit en permanence. Alors, je ne suis pas spécialiste des fusées. Il faudrait s'adresser aux gens de la SNECMA qui connaissent bien tous ces principes. Mais l'idée, c'est lorsque vous l'avez sous forme liquide, c'est de pouvoir avoir d'énormes débits de combustible, des quantités de combustible importantes que vous pouvez faire réagir. Vous avez des pompes. Qui pompent cet hydrogène, cet oxygène et qui le font réagir au sein du moteur de manière à avoir des quantités de combustible qui vont réagir, qui vont brûler, des vitesses d'éjection de gaz importantes et donc propulser des tonnes de satellites vers l'espace. Donc c'est pour ça qu'on utilise sous forme liquide, on ne pourrait pas le faire autrement. S'il était à l'état gazeux, on ne serait pas capable de brûler d'aussi grandes quantités d'hydrogène en aussi peu de temps. Donc c'est le principe de ces fusées et c'est la première utilisation à usage transport de l'hydrogène depuis les années 60. Votre extrait date de 67 pour les fusées européennes, oui. Même si c'était un auditeur français.
Florence, une autre joyeuseté. Alors une autre joyeuseté pour la sieste cet après-midi. Vous allez voir pourquoi. Là nous allons remonter dans le temps.
Plus le temps encore.
On remonte le temps parce que là on parle le 12 décembre 1956 et on va écouter une de nos petites qu'on aime bien dans le milieu scientifique, malheureusement.
Ça, c'était toute une époque.
C'était toute une époque. C'était le magazine Culture Française qui passait très tôt le matin en plus. Donc, je ne sais pas comment faisaient les auditeurs parce qu'ils écoutaient ça à 8h du matin. Donc, il fallait être en forme.
Et vous êtes en train de flinguer l'extrait qu'on va entendre.
Non, non, parce qu'en même temps, il y a un lien avec ce qu'on a entendu précédemment. C'est que, visiblement, l'hydrogène, on s'en est servi très tôt aussi pour s'élever dans les airs. Et c'est ce que nous explique Raymond Touraine, qui était agrégé de physique et qui nous parlait donc de l'hydrogène.
En 1956.
Si nous avons la curiosité de consulter, par exemple, le traité de chimie minérale de Moisson, datant de 50 ans, nous n'y trouvons comme application de l'hydrogène que le gonflement des ballons et l'alimentation du chalumeau oxydrique. Aujourd'hui, ces deux usages ont pratiquement disparu. Néanmoins, les besoins en hydrogène ont augmenté de façon considérable, puisqu'ils s'établissent actuellement à plusieurs centaines de milliers de tonnes annuelles. Si l'hydrogène a pris une telle importance, c'est aussi parce que les sources qui permettent de l'obtenir sont apparemment inépuisables. On le retire en effet de l'eau et des hydrocarbures. Une méthode élégante consiste à décomposer l'eau par le courant électrique. Cette électrolyse de l'eau fut découverte en 1800 par les Anglais Carlyle et Nicholson. La première application à grande échelle de ce phénomène semble due en 1890 au colonel Renard, qui utilisait ce procédé dans de gigantesques cuves à électrolyse pour obtenir l'hydrogène nécessaire au gonflement de ces ballons dirigeables.
Alors, les ballons dirigeables, est-ce que c'est pas la catastrophe du Hindenburg en 1937 qui a tué un peu l'hydrogène ?
Alors, assurément, l'accident de Hindenburg a marqué un arrêt d'une application qui était l'utilisation de l'hydrogène, finalement un gaz très léger, beaucoup moins cher à utiliser que l'hélium, pour pouvoir élever dans les airs et transporter des passagers sur des très grandes distances. Cet accident a sûrement marqué l'arrêt, notamment pour une raison, c'était l'un des premiers accidents à avoir été médiatisé par une caméra, c'est-à-dire que pour la première fois, un accident les gens ont pu voir et assister à l'atterrissage de l'Hindenburg et à sa condition.
Près de New York. Voilà, et il y a plus de 30 morts.
Alors effectivement, donc comme tout accident, il y a des victimes et l'hydrogène a été très vite mis en cause puisque C'est un gaz inflammable. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelait lorsque Cavendish l'a découvert. Et c'est devenu l'hydrogène par Lavoisier lorsqu'il s'est aperçu qu'en brûlant ce gaz, cette substance mystérieuse, il fabriquait de l'eau. Donc c'est un combustible, il brûle, c'est un gaz inflammable, mais dans le cas de cet accident, 50 ans, même plus de 50 ans plus tard, la NASA a refait l'expertise et a pu identifier qu'en fait l'hydrogène n'était en rien dans cet accident. En fait, c'est l'enveloppe du dirigeable qui était recouverte d'un vernis qui était pyrophorique, c'est-à-dire qui pouvait réagir et s'enflammer. Et oui. Cette enveloppe s'est enflammée.
Et il n'empêche qu'il y avait des milliers de mètres cubes d'hydrogène sous l'enveloppe.
Tout à fait.
Donc l'hydrogène, Florence, vous le savez, c'est dangereux.
Oui.
C'est très dangereux, Pierre Sercombe, l'hydrogène.
L'hydrogène est un produit énergétique comme le gaz naturel, présente des dangers assez similaires. Par contre, avec effectivement une capacité à fournir des énergies très importantes. Donc c'est pour ça qu'on doit mettre en place un certain nombre de parades pour éviter l'incident redouté, qui n'est pas tellement la combustion, mais qui est plutôt le risque d'explosion, comme pour tout autre gaz combustible. Mais comme je le précisais en début d'émission, finalement, l'hydrogène a été utilisé par le grand public, sans véritablement le savoir, depuis plus de 50 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on maîtrise les dangers, lorsqu'on les analyse et lorsqu'on les prend en compte, on est capable de pouvoir mettre en place un certain nombre de parades qui rendent acceptable le risque. Et c'est cette connaissance, c'est ce travail de recherche qui est nécessaire avant toute utilisation auprès du grand public et sur des grands volumes. Et juste pour la petite histoire, il faut savoir, et vous en entendez jamais parler, en général c'est bon signe vis-à-vis de la sécurité, que par exemple, à l'échelle européenne, entre la France et le Benelux, vous avez plus de 1500 km de réseau d'hydrogène fonctionnant jusqu'à 100 bars dans des tuyaux qui font jusqu'à 300 mm de diamètre. Vous avez des sites de production, des sites de consommation.
Mais ça passe où?
Ça passe dans des tuyaux.
Mais où?
Sous la terre.
Oui, mais où? ça traverse quelle région?
Alors ça part de Rotterdam à peu près, et ça arrive jusqu'à Oisier, donc dans le nord de la France. Ou par exemple à Oisier, vous avez une unité de liquéfaction d'hydrogène, c'est-à-dire que cet hydrogène, on le réutilise, on le liquéfie, et on va l'utiliser pour les applications industrielles actuelles, puisque quand j'ai parlé de 50 millions de tonnes de production d'hydrogène, dont seulement 1% à usage énergétique, ça veut dire que les 99% sont quand même utilisés pour d'autres applications.
Oui.
Des applications telles que l'alimentaire, la margarine n'existerait pas si on n'avait pas hydrogéné les graisses végétales.
Tiens donc,
voilà,
et donc, vous savez comment on fait?
Alors, pas exactement, c'est une réaction effectivement entre l'hydrogène et les graisses, c'est une réaction qui est activée par un catalyseur.
On demandera à Hervé Tisse.
Et voilà, il faudrait trouver un spécialiste de l'alimentaire qui doit maîtriser ça. C'est une des grandes applications. Hein. Regardez les boîtes de biscuits, vous verrez graisse hydrogénée. Vous verrez le terme hydrogéné, vous le verrez apparaître sur beaucoup de biscuits. De mémoire, c'est notamment pour augmenter la conservation de ces biscuits.
Quelles autres applications?
Alors, les grandes autres applications sont les applications notamment en métallurgie. L'hydrogène est utilisé pour éviter que l'oxygène vienne réagir avec le métal. C'est ce qu'on appelle un milieu réducteur. Vous avez d'autres applications dans la microélectronique. C'est un grand consommateur d'hydrogène. Les derniers chiffres d'Air Liquide, le PDG d'Air Liquide a dernièrement annoncé des chiffres impressionnants. Et l'une des explications qu'il a données, c'est justement la croissance dans la microélectronique qui a conduit à une consommation accrue d'hydrogène qui est utilisée dans le process de fabrication des puces électroniques, notamment pour pouvoir faire du découpage sur de très très faibles épaisseurs de ce qu'on appelle des wafers, c'est-à-dire des disques de silicium. Mm-hmm. Et vous avez encore d'autres applications, mais ce sont les principales. Et la grande, c'est le raffinage. Le raffinage du pétrole qui désormais consomme énormément d'hydrogène.
Il va falloir qu'on s'arrête là, hein.
Bon, oui.
Non, mais pour le pétrole, il va falloir qu'on arrête.
Mais oui, mais l'utilisation de l'hydrogène à l'heure actuelle est plutôt liée à justement permettre à ce pétrole de diminuer des composants qu'on aimerait éviter, et notamment par exemple la désulfurisation des essences. Et l'hydrogène, en fait, permet cette désulfurisation des essences, et comme les critères européens sont de plus en plus drastiques, les pétroliers ont besoin désormais d'investir dans des usines de production d'hydrogène auprès de gens comme Air Liquide ou d'autres concurrents afin de désulfuriser leurs essences. Et ça, c'est un énorme marché.
Donc l'hydrogène a un fort pouvoir énergétique, mais l'hydrogène est aussi un produit chimique.
C'est d'abord et avant tout un produit chimique.
Et Florence Dartois a cédé sa place à un monsieur tout propre, mais vraiment pas une tache, Daniel Berthaud. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable scientifique, produit d'entretien de la maison chez un grand lessivier. Vous allez nous raconter l'histoire de la lessive. Il y a des points communs entre la lessive et l'hydrogène, à votre avis, Daniel Berthaud?
Oui, bien sûr. On peut laver son linge de tas de façons. Et effectivement, il y a une technique qui est en train d'être commercialisée. Je crois qu'elle est d'origine asiatique, qui consiste à utiliser l'électrolyse pour nettoyer son linge. Bon, ça ne marche pas sur tous les types de salissures. Il faut souvent rajouter un peu de détergent. Hein, ça ne marche pas très bien sur ce qui est café, thé, mais ça a été mis au point et ces machines commencent à être commercialisées. Alors là, ce n'est pas vraiment de l'hydrogène, c'est plutôt l'ion hydrogène. C'est l'ion hydroxyle qui sont utilisés. On n'est pas dans le domaine, entre guillemets, gazeux, on est dans le domaine ionique. Mais ça revient à peu près au même, effectivement.
Et avec les piles à combustible, qu'est-ce qu'on peut imaginer, Pierre Sercombe? Alors, je vous avais demandé de poser des questions à Daniel Berthaud, mais pas de questions.
J'ai écouté ça religieusement. Si on a eu quelques apartés, parce que finalement, l'oxygène actif m'intéresse beaucoup, parce que parmi les verrous de la pile à combustible, c'est effectivement l'activation de la réaction côté oxygène qui nous pose beaucoup de problèmes, qui nous fait perdre des points de rendement. Et donc, je vois que les soucis sont complémentaires. Nous aussi, nous regardons si les enzymes, pas gloutons, mais réactifs, pourraient permettre dans le futur de limiter l'utilisation de matériaux nobles et d'obtenir des niveaux de rendement particulièrement importants de la pile à combustible, même s'ils le sont déjà.
Alors, la pile à combustible, on s'en servira pourquoi? J'ai vu qu'il y avait des projets pour des avions.
Alors,
on en parle pour les voitures, mais on en parle aussi pour les téléphones portables.
Tout à fait. En fait, la pile à combustible, nous avons déjà réalisé des prototypes dans la quasi-totalité des applications possibles de systèmes énergétiques. Donc, nous sommes désormais capables de pouvoir faire des piles à combustible pour répondre aux besoins énergétiques d'un téléphone portable. Nous sommes capables de pouvoir faire des piles à combustible en utilisant les mêmes technologies que la microélectronique, sur ce qu'on appelle des wafers, et donc de produire des toutes petites piles pour faire des milliwatts de puissance.
Vous en avez apporté, ça ressemble, c'est gros comme un ongle.
C'est gros comme un ongle, et en en mettant 3-4 sur une plaque, on a une puissance suffisante pour l'intégrer, puisque c'est extra plein, ça représente quelques centaines de microns, pas plus, et ça peut s'intégrer
une feuille de papier à cigarette,
et ça peut s'intégrer dans un téléphone portable.
Mais on a besoin d'hydrogène.
Alors, dans ce cas particulier, l'hydrogène, bien sûr, il ne sera pas stocké dans des bouteilles d'hydrogène sous forme gazeuse. Nous avons la possibilité d'utiliser des réactions chimiques. Nous pouvons faire réagir deux produits de manière à ce qu'il le produit de la réaction, ça soit de l'hydrogène. Deux produits stables, c'est-à-dire ce qui ne présente aucun danger pris séparément. Et lorsque l'on les mélange, la réaction conduit à la fabrication d'hydrogène que l'on utilise immédiatement dans la pile à combustible pour faire de l'électricité.
C'est pour quand ces piles à combustible?
Alors, les piles à combustible, on vise à peu près 2030 pour les applications dans les véhicules automobiles, qui est finalement le challenge le plus difficile à atteindre. Mais il y a une phase de transition et on peut envisager que déjà les micropiles puissent débarquer sur le marché dans les 3 ou 4 prochaines années. Et on envisage aux alentours de 2015, des projets industriels sont en train de voir le jour pour pouvoir avoir des dispositifs commerciaux, notamment pour des groupes d'électricité secourus, pour pouvoir utiliser, pour compléter les énergies renouvelables, pour apporter une aide à l'implantation des énergies renouvelables et notamment pour permettre le stockage de l'électricité produite par l'éolien ou par les panneaux photovoltaïques, qui malheureusement produisent de l'électricité pas toujours quand on en a besoin. Et là, l'hydrogène pourrait devenir un élément absolument clé au déploiement de ces énergies. Et les îles, c'est pour ça que je suis venu d'ailleurs avec une chemise hawaïenne,
très jolie d'ailleurs.
Voilà, ben les îles Hawaï, la Corse, l'île de la Réunion sont excessivement intéressées par ces technologies de stockage d'électricité produites à partir de fermes éoliennes ou de fermes solaires, parce qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir les déployer au-delà de 15, 20 ou 30%.
Voilà à quoi on travaille dans votre laboratoire ou dans vos laboratoires. Merci beaucoup Pierre Sercombe, vous êtes responsable du programme Technologie de l'hydrogène au CEA. Merci beaucoup et bravo pour votre chemise.
Merci à vous.
Merci Daniel Berthaud.